Brassage sur RCN, Hélène Ingret.
Bonjour auditrices et auditeurs. Alors ce brassage, eh bien le titre c'est la légende de Saint-Nicolas. La principale partie de cette émission de brassage reprendra d'ailleurs une mission que nous avions faite l'an passé, puisque pour les faits historiques, ça ne change pas au niveau de Saint-Nicolas. Donc je vous propose de réécouter justement l'origine de cette légende de Saint-Nicolas. Ensuite, eh bien, dans la dernière partie, nous aurons quelques informations succinctes, puisque nous les développerons davantage pour les émissions suivantes, puisque cette émission passe le 21 novembre. Mais vous avez la possibilité, justement, en fin décembre, d'avoir des rendez-vous musicaux sur Vendeuvre avec un certain nombre de concerts, dont la plupart sont gratuits, non ? Avec aussi, donc c'est à la ferme du Charmois, en fin d'après-midi, et enfin en soirée, hein, pour ce qui est des concerts, puisque la restauration, effectivement, commence à partir de 19h30. Donc des rendez-vous qui vous sont proposés du 28 au samedi 30 novembre. Et puis également, eh bien, début décembre, outre bien sûr ce fameux défilé de la Saint-Nicolas qui aura lieu sur Nancy, c'est quand même le grand rendez-vous qui nous est proposé. Le défilé a lieu le 7 et le 8 décembre, mais nous vous proposerons que le 7 décembre, si vous le souhaitez, vous puissiez aller écouter trois groupes de musique chez Paulette. D'une part, les José, les Calcanos et également Dusty Frock. Et le lendemain, eh bien, c'est un marché de Noël au refuge de Mordant, où il y aura l'après-midi possibilité de soutenir les animaux, ainsi que le 14 décembre. Cette fois-ci, ça sera à Amance, au refuge de la SPA. Donc voilà pour rapidement le menu de ce brassage, en sachant que le 14 novembre, eh bien, la Meuse était l'invitée sur France Inter, notamment dans cette émission, eh bien, Carnet de campagne, qui a lieu de 12h30 à 12h45 avant le jeu des 1000 euros. Donc ces deux émissions se passaient en Meuse. Et le 14 novembre, dans Carnet de campagne, nous avions le plaisir d'entendre les Semeuses. Vous pourrez aussi l'écouter également en podcast. Mais de tout cela, nous en reparlerons en fin d'émission. Je vous propose déjà de réécouter la légende de Saint-Nicolas. Bonjour Mathis Baudouin, qui sera le second compère pour cette spéciale Saint-Nicolas. Bonjour Mathis.
Bonjour.
Alors justement, cette légende de Saint-Nicolas, eh bien ces différents extraits sont tirés d'un ouvrage, il décline beaucoup de thèmes, sous l'intitulé de la collection Les Patrimoines, avec le Dauphiné libéré, et c'est de Saint-Nicolas au Père Noël. Je vous lis le sommaire, l'introduction. L'évêque de Myre, les objets de Saint-Nicolas, un culte universel, l'église Saint-Nicolas de Port, un saint aux multiples patronages, trois enfants au saloir, le saint de l'hiver, l'âme et l'âne de Saint-Nicolas, et bien sûr le père Fouettard. Ensuite, il y a les concurrents, mais tout cela, eh bien, ça sera dans l'autre brassage consacré au Père Noël qui tient son origine aussi avec cette légende de Saint-Nicolas. Donc, tiré de Saint-Nicolas au Père Noël, la collection des patrimoines, et il vous en coûtera un peu moins de 8 euros si vous voulez l'acheter ou le faire acheter à votre médiathèque la plus proche et ensuite vous l'empruntez. Introduction. Et on commence donc par cette introduction. Est-ce une profession de foi, la manifestation de piété envers un des principaux saints de la chrétienté, prié par les orthodoxes comme par les catholiques? Alors pour d'une façon culture générale, orthodoxe, c'est un des courants de la chrétienté. bon, un peu plus extrémiste, on dirait, par rapport à d'autres courants qui sont, par exemple, plus réformateurs, comme par exemple les protestants. Il n'est pas nécessaire de choisir une réponse. La Saint-Nicolas participe de ces deux pôles. Elle s'est développée autour de la figure d'un saint évêque dont la vie, sans cesse réécrite, permet d'expliquer et de présenter les grands mystères de la religion. Très vite, les célébrations se sont concentrées sur l'hiver, agglomérant autour d'elles les peurs et les espoirs de populations rurales qui entrent dans, entre guillemets, mauvaise saison. Alors, qui est Saint-Nicolas ? Le héros d'une saga antique, le support de rites d'aversion dans des mondes traditionnels, le vecteur du contrôle social ou un moyen pour maintenir l'équilibre des comportements. On peut voir aussi en lui, deux points, l'image même de la charité gratuite, le modèle du bon chrétien, la figure qui exalte les dogmes de l'Église. Qui est-il ? Il est tout cela, et bien plus encore. Il est une figure historique et un être de légende. Il est un croyant et une invention sociale. Alors j'insiste, hein, une invention sociale. Il est surtout une des effigies les plus fortes de la culture européenne. J'insiste sur l'invention sociale parce que par la suite, eh bien, je vous relaterai un certain nombre d'éléments de cette légende. Je ne le mettrai pas au conditionnel, mais ça participe vraisemblablement aussi de cette invention sociale. Aujourd'hui, le monde s'est urbanisé et déchristianisé. Mais la Saint-Nicolas demeure avec ses deux versants, religieux et festif. Notre saint doit cependant faire face à la concurrence de Père Noël, né au début du XIXe siècle, car Nicolas ou Noël portent des valeurs similaires. Mais pour ce côté similaire, eh bien, comme je vous l'ai dit, ça sera dans un prochain brassage. Au fil de cette émission, vous ne serez pas surpris, bien sûr, les illustrations auront trait à Saint-Nicolas avec des petites pépites. Et oui, Lucien Jeunesse, alors ça c'est pour ceux qui ont un peu plus de 20 ans, et particulièrement connu comme animateur du jeu des 1000 francs, à l'époque c'était encore des francs, hein, sur cette chaîne publique France Inter maintenant. Maintenant c'est le jeu des 1000 euros. Donc ça remonte, hein, Lucien Jeunesse. Et j'ai été surprise de voir qu'il avait chanté quelques chansons de Saint-Nicolas. Et justement, eh bien, je vous propose la première, tout simplement la légende de Saint-Nicolas par Lucien Jeunesse.
Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ, s'en vont un soir chez un boucher. « Boucher, voudrais-tu nous loger ? Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément. » Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils n'étaient pas si tôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme un pourceau. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer dedans ce champ, alla frapper chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger ? Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Entrez, entrez, Saint-Nicolas, il y a de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas si tôt entré qu'il a demandé à souper. Du petit salé, je veux avoir, qu'il y a 7 ans qu'est dans le saloir. Quand le boucher entendit ça, hors de la porte, il s'enfuya. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. Saint-Nicolas alla s'asseoir dessus le bord de ce saloir. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Petits enfants qui dormaient là, je suis le grand Saint-Nicolas. Et le saint étendant trois doigts, Les petits se lèvent tous les trois. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Le premier dit, j'ai bien dormi. Le second dit, et moi aussi. Et le troisième répondit, je me croyais en paradis. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ.
Au Moyen-Âge, la légende de Saint-Nicolas s'enrichit d'un de ses miracles les plus célèbres, la résurrection des trois enfants. Elle serait due au poète normand qui compose une vie de Saint-Nicolas vers 1150. Donc, lentement, son histoire entre dans les légendaires. On la retrouve également dans d'autres légendes, dans une pièce par exemple latine au XIIIe siècle. L'histoire commence un soir d'hiver. Après avoir travaillé toute la journée au champ, trois pauvres garçons errent dans la campagne quand la nuit tombe brutalement. Ils arrivent soudain devant la maison d'un boucher qui accepte de les accueillir. Il les fait souper et les installe dans une grange au milieu du foin, comme le dit la complainte populaire.
Ils n'étaient pas sitôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés tout par morceaux, mis au saloir comme pourceau.
7 ans plus tard, Nicolas passe dans la région. Il se rend immédiatement chez le boucher, à qui il demande l'hospitalité. Celui-ci le reçoit.
Entrez, entrez, Saint-Nicolas. De la place, il n'en manque pas.
Le saint veut manger et l'hôte essaye de le contenter.
Voulez-vous un morceau de jambon ? Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau ? Je n'en veux pas, il n'est pas beau. De ce salé, je veux avoir qui a 7 ans, qui est dans le saloir.
À ces mots, le boucher tremble. Serait-il découvert ? Il préfère fuir. Mais le saint le rattrape et le ramène dans sa maison. Il pénètre dans le saloir et lève 3 doigts en prononçant une prière. Immédiatement, les enfants reviennent à la vie.
Le premier dit « J'ai bien dormi ». Le second dit « Et moi aussi ». A ajouté le plus petit « Je croyais être au paradis ».
Depuis son invention, cette histoire est devenue l'attribut même de Nicolas. La majorité des représentations le montrent debout près d'un baquet, d'où émergent 3 enfants qui tendent les bras vers lui. Elle manifeste aussi la force d'une religion qui considère la résurrection comme un acte de foi fondamental. La présence de 3 personnages est un leitmotiv dans la légende de Nicolas. Ce sont 3 jeunes filles qu'il dote et 3 soldats qu'il libère. Ce chiffre est le symbole de la Trinité chère aux chrétiens.
Saint Nicolas, je n'ai rien. Rien qu'un petit cœur qui chante, comme un buisson en avril, comme un buisson en avril. Je n'ai ni carte ni plume pour t'écrire dans ton paradis. Ma bouche qui grelottait et le grand froid qui rôdait viennent tracer sur ma vitre en légers flocons de givre les vœux de mon petit cœur, de mon petit cœur. Saint Nicolas, je voudrais que cette nuit tu te penches vers ceux qui n'attendent plus, vers ceux qui n'attendent plus, que tu descendes pour eux vers ces pauvres enfants d'hier, ces tragiques petits vieux qui se courbent vers la terre comme pour y rechercher l'âme des Noëls passés sous tant de neige emmitouflée, de neige emmitouflée. Saint Nicolas, je veux bien que mon soulier reste vide, mais fais que mon cœur soit plein, mais fais que mon cœur soit plein du simple bonheur d'avoir 2 pieds dansants comme la vague qui valse sur les rochers, Deux yeux qui cueillent les nuages, deux bras blottissant mon cœur, chaque soir au cou de maman, un rire de source au soleil, un rire de soleil. Sur toutes les vitres du monde, le givre t'écrit au bon saint, la prière des pauvres gosses qui n'ont rien. Fait de toute leur misère, au temps de Saint-Nicolas, qui seront comblés de trésors, le soulier tristement vide, que chaque vieux garde dans son cœur.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Avec Mathis Baudouin dans cette spéciale Saint-Nicolas, tiré notamment de cet ouvrage des patrimoines du Dauphiné libéré de Saint-Nicolas au Père Noël. L'évêque de Myre. Donc le récit de la vie d'un saint mêle toujours étroitement histoire et légende. Nicolas naît vers 270 dans un port prospère de la province méridionale de l'actuelle Turquie. À ce moment, l'Empire romain traverse une grave crise. L'assassinat de l'empereur ouvre une période de troubles politiques majeurs. En moins de 20 ans, 7 souverains se succèdent, 5 étant assassinés par des rivaux. Au même moment, des incursions barbares fragilisent les régions frontières et un marasme économique frappe les populations. L'arrivée au pouvoir du général Dioclétien rétablit la paix. Il repousse les envahisseurs, mais ne parvient pas à abolir la misère. Dans ses premières années, Nicolas semble pourtant épargné par ses difficultés. Son père est riche et charitable. Ses parents le chérissent. Ils ont si longtemps attendu cette naissance. L'enfant est considéré comme un don de Dieu. Immédiatement, le nourrisson semble d'ailleurs... Excusez, mais quand je l'ai lu, j'ai pas pu m'empêcher de sourire et à nouveau, c'est... Je vous lis le passage. Immédiatement, le nourrisson semble d'ailleurs faire preuve d'une extraordinaire piété, comme quoi la légende et la réalité se télescopent. Alors qu'on le baigne, il se dresse dans son bassin pour se tourner vers le ciel. Pendant 3 heures, il reste les mains jointes, c'est un bébé, hein, dans une prière muette. Plusieurs fois par semaine, il refuse le sein de sa nourrice pour jeûner en l'honneur de la passion de Jésus. Il est un chrétien parfait. Devenu orphelin très jeune, il se dévoue aux pauvres, leur abandonnant sa fortune. Apprenant ses mérites, son oncle, Nicolas l'Ancien, évêque de Myre, alors Myre ça s'écrit M-Y-R-E, l'appelle à ses côtés. Il l'ordonne prêtre et le fait supérieur du monastère. Réussissant parfaitement à gérer cette maison, le jeune homme se voit confier l'administration du diocèse pendant une absence du prélat. Mais la réussite semble un danger pour Nicolas qui décide d'abandonner titre et richesse pour se rendre en pèlerinage en Terre Sainte. Arrivé en Égypte, il guérit les habitants du Caire frappés par la peste, avant de s'enfoncer dans le désert pour rencontrer saint Antoine. Il est immédiatement tiré par la vie de reclus que mène le solitaire, une existence entièrement consacrée à la prière et à la contemplation. Il se rend en Palestine et visite les lieux de la Passion du Christ à Jérusalem pour revivre les épisodes bibliques et évangéliques. Pendant plusieurs jours, il se fait enfermer dans une grotte où, selon une tradition, la Sainte Famille se serait cachée pendant la fuite en Égypte. Il souhaite alors ne plus quitter ces lieux sacrés. Mais Dieu lui apparaît pour lui ordonner de rentrer. Il ne le destine pas à la contemplation, mais à l'action dans le monde. Immédiatement attentif aux grandes vertus du jeune homme, les chrétiens veulent le nommer évêque. Il résiste, mais une fois de plus, l'intervention divine l'oblige à accepter. épisode caractéristique des vies saintes que nous retrouvons dans d'autres biographies. Vers 300, Nicolas devient donc évêque de Myre. Tout au long de son existence, Nicolas est le défenseur de l'Église. Il s'en prend d'abord aux cultes païens encore nombreux et actifs à cette époque. Il chasse aussi les fidèles d'Apollon qui affluent à Patara tous les 6 décembre pour honorer leur dieu qui apparaît dans leurs rêves. Cette date restera liée aux saints puisqu'elle correspond à sa fête. Cette évangélisation par la force n'est pas appréciée de tous, pour le moins quand même. Enfin, c'est moi qui rajoute pour le moins. Cette politique de christianisation n'est pas aisée car le christianisme n'est pas parfaitement installé dans l'Empire. Vers 300, donc, Dioclétien lance une vague de persécution. L'Église ne doit pas seulement lutter contre les attaques venues de l'extérieur, elle doit faire face à des remises en cause internes. Sur ordre de l'empereur Constantin, un concile œcuménique se réunit en 325. Plus de 200 prélats, donc Nicolas, assistent à cette réunion. Il fixe de nombreux aspects du culte, en particulier la célébration de Pâques, et définissent le credo de l'Église. Le dogme de la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est instauré. Pour manifester l'importance de cet enseignement, le chiffre 3 demeurera attaché à tous les épisodes de l'existence de Nicolas. La légende de Nicolas joue avec ce contexte difficile. Par exemple, il y a la légende des 3 officiers qui est caractéristique. Une révolte ayant éclaté, Rome envoie 3 soldats rétablir l'ordre. Nicolas les accueille. Lors d'un repas, ils apprennent la condamnation à mort de 3 innocents. L'évêque se précipite, arrache l'épée de la main du bourreau et libère les prisonniers. Les 3 militaires reprennent leur voyage et remplissent leur mission avec zèle. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtent à Constantinople. Là, des jaloux les accusent, à tort, de préparer un coup d'État. Jetés en prison, ils sont condamnés à mort. Se souvenant de l'action de Nicolas, ils l'implorent. Le prélat, miraculeusement prévenu, apparaît en songe à l'empereur, qui ordonne de les relâcher. Croyant à un sortilège, le souverain les convoque pour les interroger. La dignité de leur tenue et l'honnêteté de leurs réponses le persuadent qu'ils sont protégés par le ciel. Ils sont graciés et réintégrés dans leur grade. Nicolas sait aussi se préoccuper de ses ouailles. Ainsi, le grain étant venu à manquer, Dieu apparaît à l'évêque, lui apprenant qu'un marchand s'apprête à envoyer du blé vers l'Espagne. La nuit, il entre dans le rêve du commerçant à qui il remet 3 pièces d'or en guise d'art pour sa cargaison. Réveillé, le négociant ordonne à son bateau d'obéir à son songe. Non seulement il fait un substantiel bénéfice, mais en plus, il sauve la région de la famine. Quelques années plus tard, Nicolas sauve une nouvelle fois son diocèse de la faim. Une cruelle disette touche tout le Proche-Orient. Venant d'Égypte et se dirigeant vers Constantinople, un navire chargé de vivres fait halte à Myre. Immédiatement, Nicolas demande au capitaine de décharger. Celui-ci refuse, expliquant qu'il doit répondre sur sa vie de la quantité à livrer. L'évêque réplique que son don ne diminuera en rien sa cargaison. Les sacs de grains sont donc débarqués avant que le bateau reprenne la mer. Arrivé à destination, le capitaine découvre que son chargement est intact. Notre saint est donc bien le pourvoyeur de l'abondance, celui qui évite les pénuries en multipliant les grains. Il fait souvenir des miracles de Jésus lors de la noce de Cana. En intervenant dans les rêves, il investit un domaine qui semblait l'apanage d'Apollon, donc fêté auparavant le 6 décembre, Apollon. Avant que Saint-Nicolas récupère donc cette date du 6 décembre, la légende traduit la réalité de l'action d'un prélat obligé de gérer une région. Elle symbolise aussi la récupération par l'Église d'aspects du paganisme comme par exemple ces différentes dates. C'est moi qui rajoute comme par exemple ces différentes dates. Il a beau être saint, il meurt. Une mort exemplaire. Vers 335, affaibli, Nicolas sent la mort approcher. Il fait ses adieux à la population de Myre avant de se retirer dans un monastère. Ayant ainsi renoncé aux illusions du pouvoir, il se fait administrer les derniers sacrements. La légende assure qu'une foule d'archanges et de saints patriarches descend du ciel chercher l'âme du défunt. Son corps est ensuite mis dans un sépulcre de marbre. Il est enterré dans l'église du monastère et beaucoup de manifestations extraordinaires apparaissent alors au niveau de sa dépouille. Ultérieurement, à la place du temple païen, est érigée une église en l'honneur du saint. Une fête spécifique naît également. Elle se déroule donc le 6 décembre à la place des cérémonies en l'honneur d'Apollon, abolies par Nicolas. Donc, dans cette histoire, il est très difficile de démêler les faits avérés et la légende. À présent, une troisième illustration musicale chantée par Lucien Jeunesse. Eh bien, Saint Nicolas, patron des écoliers.
Au grand Saint Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme un petit mouton. Je dirai des prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint Nicolas, venez, venez, Saint Nicolas. Venez, 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 Saint Nicolas, tra-la-la. Saint Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme un petit mouton. Je dirai des prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint Nicolas, venez, venez, Saint Nicolas. Venez, 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 Saint Nicolas, tra-la-la.
Saint Nicolas est un saint universel aux multiples patronages. Alors, comme nous venons de l'entendre, bien sûr des écoliers, mais pas que des écoliers. Comme pour tous les saints, la légende qui entoure la vie de Nicolas est emplie de faits merveilleux. La légende de Saint Nicolas, donc traduite en latin, est reprise et enrichie par les ouvrages médiévaux et au fil des rédactions, Nicolas devient le patron d'innombrables personnes. Ayant plusieurs fois aidé des enfants, il est le patron des écoliers. Ayant libéré 3 officiers, il est le protecteur des prisonniers et le patron des avocats. Le protecteur également des gens mariés. Ne désespérant pas de ne pas pouvoir donner de dot à ses filles, un habitant de Patard décide de les vendre à un bordel. Apprenant cela, Nicolas se glisse de nuit près de la maison et il laisse tomber une bourse de pièces d'or. Étonné, le père prend l'argent et marie son aîné. Peu de temps après, Nicolas fait de même pour la seconde puis troisième fille. Surpris en pleine action, il implore la famille de ne pas révéler son geste. Mais sa demande n'est pas entendue et, le lendemain, toute la ville sait la générosité de Nicolas. Ce passage de la légende transforme le saint en un puissant protecteur des jeunes filles et des gens à marier. Le 25 novembre, les jeunes filles de 25 ans sans mari, célèbre Sainte Catherine. Née en Alexandrie dans une famille noble, elle refuse de se marier pour se dévouer totalement à Jésus. Sainte Catherine, donc la fameuse Sainte Catherine en question. Elle est martyrisée sur ordre de l'empereur. Depuis, elle est la patronne des théologiens, philosophes, orateurs, notaires, étudiants, meuniers, plombiers, tailleurs, surtout des filles à marier. Pour les garçons, Nicolas joue ce rôle. Jusqu'au début du XXe siècle, il implore de leur trouver une compagne. Également, il est le patron des voyageurs. Au cours de sa vie, Nicolas fait plusieurs périples en bateau. Lorsqu'il se rend en Terre Sainte, il prédit au capitaine une furieuse tempête. Dès que le vent se lève, il se jette à genoux en prière sur le pont et repousse le démon qui menace de faire couler le navire. Quelques jours plus tard, il ressuscite un matelot qui s'était tué en tombant d'un mât. Une autre légende rapporte qu'un navire, perdu dans le brouillard, est sur le point de couler au large de Myre. Quand les marins voient dans le ciel un personnage lumineux leur indiquer la route. Arrivés au port, ils entrent dans une église pour remercier Dieu. Ils y découvrent, officiant à l'autel, l'évêque Nicolas. Ils reconnaissent immédiatement la mystérieuse apparition qui les a sauvés. Depuis, Nicolas est considéré comme le patron des marins et le protecteur des voyageurs. Des professions se mettent également sous sa protection, tels les bateliers de Paris ou autres commerçants obligés de voyager. Nicolas compte notamment, on l'admire, lors du défilé, le fameux défilé à Nancy, eh bien, en surprend plus d'un à cause de ces différents objets. Et nous allons pouvoir en savoir justement davantage. Donc Saint-Nicolas s'est maintenant imposé dans l'imagerie. Pour savoir pourquoi il porte son costume, nous l'avons interviewé. Saint-Nicolas, pourquoi portez-vous ce grand manteau ?
Mais ce n'est pas un manteau, c'est une chasuble épiscopale.
Une chasuble épiscopale ?
Laissez-moi vous expliquer. C'est un vêtement à deux pans, sans manches, avec une ouverture pour la tête, que le prêtre passe au-dessus de son aube pour célébrer la messe ou réaliser certaines actions liturgiques. Les premiers clercs portaient un costume en forme de rotonde, les enveloppant totalement. Il fallait le relever pour bouger les bras. C'était, avoué, un peu pratique. Parfois, on avait besoin d'assistants qui portaient les pans pendant l'office. Vers le XVIIe-XVIIIe siècle, on a donc fait une large échancrure sur les côtés. C'est ce qu'on a appelé la chasuble à la romaine ou chasuble baroque. Elle s'est imposée partout. Puis, on a adouci la forme, on l'a faite plus petite, on a évasé le bas et resserré au niveau de la poitrine. À cause de ce dessin très particulier, on l'a appelé chasuble violon.
Et votre chapeau ?
Ce n'est pas un chapeau, mais une mitre. La coiffure liturgique que les prélats portent durant les cérémonies. Elle est apparue en Occident vers 1140-1150. C'était d'abord un bonnet fermé, possédant deux bandes, les fanons tombant sur les épaules. Lentement, elle est devenue plus pointue pour atteindre sa forme actuelle au XVIIe-XVIIIe siècle. Les deux pans symbolisent les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau.
Saint-Nicolas, est-il vraiment pratique d'avoir à la main une crosse ?
Une fois de plus, cet attribut vient de mes anciennes fonctions épiscopales. Les premiers évêques portaient un tau grec à partir du XIIe siècle. Son extrémité s'est recourbée pour devenir une volute. Elle rappelle la houlette, le bâton des bergers. N'est-il pas écrit dans la Bible « Le Seigneur est mon berger » ? La crosse est donc le signe de celui qui dirige de façon paternelle. Vous voyez, mon costume n'a rien d'étrange, c'est celui d'un prélat. N'oubliez pas que j'ai été évêque de Myre.
Cependant, vous avez une hotte.
Ah oui, la hotte. Elle est bien pratique. Quand j'étais évêque, je n'en avais pas. Mais maintenant, comment voulez-vous faire ? Dans quoi voulez-vous que je porte tous ces jouets ? J'avais essayé un grand sac, mais cela manquait de dignité. La hotte sur le dos, je peux porter. Oui. Ma crosse est conservée à ma majesté. Elle me rappelle aussi tous ces pauvres gens dont elle était l'outil de travail. Ces innombrables porteurs que chacun méprisait. Ce simple instrument a gagné, grâce à moi, ses lettres de noblesse. Mon costume est celui d'un évêque qui dirige et récompense.
Alors, outre ces objets de Saint-Nicolas, eh bien, à côté de Saint-Nicolas, derrière Saint-Nicolas, devant où ? Le Père Fouettard. La naissance du Père Fouettard. Père Fouettard n'est pas une pure figure de l'imaginaire. Il est la déformation de personnages sanglants que la farce rend inoffensif. Il en est ainsi en Alsace. Appelé Hans Trapp, il serait le souvenir du chevalier, donc Hans von Troyes. En Alsace, il serait le souvenir d'un chevalier des années 1450-1500 environ, qui a terrorisé le cloître et la ville de Wissembourg tout en entretenant de violentes querelles avec la papauté. En Lorraine, il serait né dans l'hiver 1552 à Metz. À cette époque, la ville est assiégée par l'armée de Charles Quint qui tente de reprendre la cité passée aux mains des Français quelques mois plus tôt. Mais les défenses royales sont formidables. Galvanisées par le duc de Guise, la population répare immédiatement les remparts ébranlés par l'artillerie impériale. Incapables de prendre la place, les assiégeants souffrent de la pluie et de la faim. Affaiblis, ils sont frappés par de terribles épidémies. En novembre, Charles Quint décide le retrait de ses troupes. Au même moment, les Messins, comme tous les ans, vont célébrer Saint-Nicolas. Pour célébrer la victoire, ils insèrent dans la procession un pantin symbolisant leur adversaire défait. Comme lui, il a une barbe et semble âgé. Il se moque de celui qui les a fait trembler. Cela devient une habitude. Désormais, Nicolas sera suivi de son repoussoir. En fait, le père Fêtard a d'illustres ancêtres. Donc, au niveau, par exemple, d'un monstre romain dont parlait déjà Platon, un monstre qui fut tué par Hercule. Depuis, chaque région a son croque-mitaine. Il porte 1000 noms, mais fait toujours partie de la même famille. Donc, Bonhomme 7 heures au Québec, Bugelsmann en Allemagne, etc. Hans Trapp, donc, en Alsace. L'homme noir au Dauphiné, Barbaou en Bretagne, etc. Jean de Vert à Paris. Ces croque-mitaines ont leurs épouses. Père Fouettard et sa mère Fouettard. Elles s'appellent donc de différents. La vieille Graud dans les Alpes a fait du mauvais trou et la chose vieille, etc. Moi, je rajoute également, il y a la fille du Père Fouettard et le fils du Père Noël, mais ça, c'est une autre chanson. Des monstres utiles. Ces croque-mitaines sont agités par les parents devant les enfants indisciplinés. Ils leur apprennent les bonnes manières. Donc, Der Schneider vient prendre ceux qui sucent trop longtemps leur pouce. Spetta ou d'autres s'emparent de ceux qui traînent la nuit dehors. Ou, par exemple, ceux qui s'approchent des rivières ou qui s'égarent dans les bois. La chose vieille punit ceux qui ne font pas leur prière avant de s'endormir et couche 8 heures ceux qui refusent d'aller se coucher. Pour les adultes, il symbolise l'hiver, les forces supraterrestres ou l'ignorance. En les promenant, une fois par an, ils exorcisent leur peur. Les croque-mitaines se situent à la frontière de la réalité et du conte, exutoire de toutes les angoisses des sociétés. Eh bien, nous allons nous faire une avant-dernière pause musicale et nous quittons un peu le côté légende de Saint-Nicolas pour une actualisation justement de cette légende avec Philippe Roussel.
Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, ne mets pas de chocolat dans mon petit panier. Si tu passes chez moi, j'ai une meilleure idée. Au grand Saint-Nicolas, pourrais-tu apporter la paix sur cette terre, même si c'est compliqué, et que cessent les guerres qu'on voit à la télé. Ces images terribles, remplace-les si tu peux. Ça doit être possible de voir un monde heureux. Au grand Saint-Nicolas, je voudrais cette année ni jouets, ni manga dans mon petit panier. Si tu passes chez moi, j'ai une meilleure idée. Au grand Saint-Nicolas, pourrais-tu apporter juste un peu de sagesse dans le cœur des plus grands? Je te fais la promesse que j'en aurai autant.
sage comme une image, te chantent les enfants. Mais quand on prend de l'âge, on l'oublie trop souvent. Au grand Saint-Nicolas, je voudrais cette année pas de bonbons, ça ira dans mon petit panier. Si tu passes chez moi, j'ai une meilleure idée. Au grand Saint-Nicolas, pourrais-tu apporter un peu de tolérance? Ce serait déjà beaucoup pour que nos différences nous enrichissent surtout. Un jour on comprendra que le monde est très beau. Merci Saint-Nicolas d'apporter ses cadeaux. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, tu sais les chocolats, tu pourras les donner à ceux qui n'en ont pas, qui n'ont rien à manger. Car tu vois, ici-bas, il y en a des milliers.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Alors, ce brassage consacré à Saint-Nicolas, notamment la légende, eh bien, si vous voulez écrire à Saint-Nicolas, eh bien, vous pouvez le faire jusqu'à, attention, hein, il y a une date limite, jusqu'au 29 novembre à minuit. Vous écrivez tout simplement Saint-Nicolas, 54 210 Saint-Nicolas de Port, pour envoyer à dessein. Donc, c'est ouvert enfants, adultes, vieillards. Eh bien, il suffit que dans votre dessin, il y ait soit Saint-Nicolas, soit un des personnages. Donc, eh bien, justement, cette légende vous en a procuré quelques-uns. Donc, jusqu'au 29 novembre, minuit, vous pouvez écrire à Saint-Nicolas, 54 210 Saint-Nicolas du Port. Je vous rappelle donc également, alors là on est dans le rétroviseur, c'était le 14 novembre que France Inter dans son émission Carnet Campagne donnait la parole à ce collectif Les Semeuses qui font du maraîchage tout près de Bure et qui expliquait justement la nécessité d'avoir des bons légumes sur une terre où ne seraient pas enfouis des déchets atomiques. Eh bien, je vous propose, si vous voulez, vous avec vos petits doigts, vous pouvez réécouter cet entretien donc sur le site de France Inter dans Carnet de campagne du 14 novembre. Et notre contribution, ce sera les buralleurs, prends ta binette.
Si t'aimes pas les supermarchés et tout leur daube congelée, leurs aliments trafiqués. Tu te méfies leurs fruits gazés, leurs légumes irradiés. Une seule solution, jardiner gaiement. Prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, ta brouette et ta serfouette. Descends au jardin dès le grand matin, prends des grands bols d'air, c'est fait, c'est super, c'est le paradis, en plus c'est gratuit. Descends au jardin, fais tout à la main, prends de bons outils, c'est vraiment utile. C'est le paradis, plus besoin de produits. Agroalimentaires qui n'ont que faire de la terre-mère. Si t'aimes pas la production chimique, qu'avec amour on te fabrique une évolution, jardiner sainement. Prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette.
tête, ta brouette et ta serfouette. Prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, ta brouette et ta serfouette. Descends au jardin, cité citadin, apprécie le bonheur, tu mets quelques fleurs, c'est le paradis, en plus c'est gratuit. Descends au jardin, n'attends pas demain, mais y tombe des bottes pour que ça dépote. C'est le paradis, plus besoin de produits. Belle palto, faut y aller. À toi maintenant de t'y coller. Hey, hey. Au jardin, va t'aérer. Où est la terre, faut la gratter. Une seule position, jardiner vraiment. Prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette. Ta brouette et ta serfouette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, ta brouette et ta serfouette. Descends au jardin, mais y de l'emprunt, respecte la terre, aime les petits vers, c'est le paradis, en plus c'est gratuit. Descends au jardin, mais y dit crottin, retrousse tes manches, jardine le dimanche, c'est tardi petit, bon pour appétit. Prends ta binette,
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 prends ta binette, ta brouette et ta serfouette, prends ta binette,
prends ta binette,
prends ta binette,
prends ta binette,
prends ta binette. Prends ta binette, ta brouette et ta serfouette. Une seule solution
pour manger sainement.
Une seule position,
jardiner vraiment.
Une évolution, il est en chantant. Plus de pollution,
durer le traitement.
Une seule solution,
jardiner sainement.
Une révolution, il est en chantant. Prends ta binette.
Prends ta binette,
prends ta binette,
prends ta binette,
ta brouette et ta serfouette, prends ta binette,
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 prends ta binette, ta brouette et puis vas-y,
vas-y, vas-y, vas-y, et lâche ta tablette.
Vous êtes dans un brassage à la légende de Saint-Nicolas avec quelques rendez-vous que je vous propose et que nous développerons davantage dans les prochains brassages. Alors, justement, fin novembre, il y a à Vendeuvre, à la ferme du Charmois. Eh bien, à partir du 28 novembre jusqu'au 30 novembre, il y a des concerts. La plupart sont gratuits. Donc, le jeudi 28 novembre, celui-ci est payant, c'est avec Jacques Simard. Le 29 novembre, Charlotte, alors c'est gratuit, Charlotte Nance. Et puis également, et vous avez donc des concerts gratuits, bah, par exemple le samedi 30 avec Christian Pacou, et puis une restauration aussi possible avec beaucoup d'autres choses. Mais je vous en parlerai dans ce brassage justement du 28 novembre. Également, un autre rendez-vous le 7 décembre, et bien c'est chez Paulette avec trois groupes, les José, Calcanos et de Steve Rock, et il vous en coûtera 10 euros. C'est vraiment quasiment donné pour l'appréciation de ces trois groupes en soirée chez Paulette. Également, un autre rendez-vous, c'est le lendemain, puisque chez Paulette, c'est à côté de Toul, et le refuge du Mordant, c'est juste avant Toul, et ils font leur marché de Noël le dimanche après-midi, le 8 décembre. Un autre marché de Noël, ce sera le samedi suivant, le 14 décembre, à la ferme de la Fourasse à Amance pour la société Lorraine de protection animale. De tout cela, nous en parlerons davantage. Mais comme justement nous sommes dans la thématique de la légende de Saint-Nicolas, eh bien, pour ces marchés de Noël, retenez bien donc au refuge du Mordant le 8 décembre et également à la SLPA au refuge d'Amance le 14 décembre, eh bien, je vous propose, entre le bœuf et l'âne gris, chanté par les enfants de Noël. Merci à Joris pour cette mise en onde de ce brassage, la légende de Saint-Nicolas. Eh bien, à vous, belle fin de mois de novembre et bon début de décembre. À bientôt dans un prochain brassage, après avoir dit merci à Tsiganiski pour notre générique musical.